Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition, dans le Lualaba, 17 morts sur le nouveau bilan de l'accident survenu samedi dans le territoire de Louboudi. Les bilans initials faisaient état des 13 victimes. L'inhumation est prévue dans les prochaines heures, notamment en raison de la capacité limitée de la morgue locale. Les détails, c'est dans cette édition. Autre temps fort de cette édition, au Nord Kivu, le chef coutumier du territoire de Beni dénonce la persistance de l'insécurité marquée notamment par les attaques des ADF attribuées à certains groupes armés, ces réclamants de Wazalendo. Ils appellent les autorités à renforcer la protection de populations civiles. Vous attendrez leur déclaration. Et à suivre à la fin de cette édition, notre invité Patrick Moulin-Dokabeye, président de la FEC Okatanga. Il revient sur les enjeux de la première conférence sur les hydrocarbures en RDC, organisée le 23 et 24 juillet à Lubumbashi, et explique comment ce secteur peut devenir un véritable levier de développement économique pour le pays. Voilà pour les principaux titres, les détails dans un instant. Christian Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Dans le Lualaba, 17 personnes ont désormais perdu la vie dans l'accident survenu samedi dans les territoires de Louboudi. Les bilans initiaux faisaient état des 13 morts. Selon l'administrateur du territoire, l'inhumation des victimes doit intervenir dans les prochaines heures, notamment en raison de la capacité limitée de la morgue locale. Jean Gandou nous en dit plus.
Le nombre des victimes de l'accident de Louboudi continue de grimper. Parmi les 4 nouveaux décès enregistrés, 2 concernent des blessés qui faisaient partie des 35 personnes admises dans des structures de soins après le drame. Les 2 autres corps ont été retrouvés sous les bâches qui recouvraient les camions impliqués dans l'accident. Jusqu'à présent, aucun membre des familles des victimes ne s'est présenté pour identifier ou récupérer le corps, renseigne l'administrateur du territoire de Louboudi. Face à l'insuffisance des capacités de la morgue, les autorités du territoire prévoient des procédures rapidement à leur inhumation afin d'éviter toute décomposition. Concernant les blessés, seuls 7 ont déjà été récupérés par leur famille et transférés à Lubumbashi pour la poursuite des soins. Cet accident était un 1e drame enregistré sur la route nationale numéro 1. Pourtant, les autorités ont déjà interdit le transport des passagers à bord des camions. Elles encouragent les voyageurs à privilégier les transports ferroviaires. Cependant, sur cet axe, le trafic de trains reste irrégulier. Une situation qui pousse encore de nombreuses personnes à emprunter les camions malgré les risques.
Direction le Nord Kivu, les autorités coutumières tirent la sonnette d'alarme face à la persistance de la sécurité. À Beni, une dizaine de chefs coutumiers réunis dimanche dénoncent les attaques des ADF ainsi que les actions attribuées à certains groupes armés, ces réclamants de Wazalendo. Membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ils alertent également sur les conséquences de cette insécurité pour les populations et demandent aux autorités de renforcer la protection des civils. Écoutons un extrait de leur déclaration lu par Mwami Kapou, chef du groupe Batangi Mbaou, un extrait proposé par Martial Papi Moukeba.
Il s'observe des tueries répétitives des populations par les ADF dans la région de Beni. Dans la partie sud-est, la population locale est devenue une vache laitière des groupes armés locaux. À cela s'ajoutent les conflits de limites du parc national de Virunga et la communauté locale, ce qui provoque des morts d'hommes, arrestations arbitraires et des pertes de productions agricoles. Les chefs coutumiers condamnent la persistance des massacres des populations civiles et ils recommandent ce qui suit au commandant des opérations au Nord Kivu d'intensifier la traque des ADF sur tous les axes opérationnels, de renforcer les effectifs militaires dans les agglomérations sous menace des ADF, d'identifier tous les groupes armés locaux se réclamant de Wazalendo et assurer leur prise en charge, aux populations de dénoncer toute personne suspectée, au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, d'accorder une audience spéciale au chef coutumier du territoire de Beni.
Toujours au Nord Kivu, les affrontements se poursuivent ce lundi entre les rebelles de l'AM-523 et des groupes Wazalendo dans le sud du territoire de Masisi. Selon des sources locales, le combat qui ont repris depuis le week-end touche plus de 7 villages du groupement des Kibabi 1 et Kibabi 2, perturbant le quotidien de population. Les détails avec Jean Gandou, encore une fois.
Jusqu'à la matinée de ce lundi, des tirs d'armes lourdes et légères étaient encore entendus sur les collines surplombant les villages de Kasoko ou Chebere et leurs environs dans le groupement Ofamando 1 en chefferie de Baoundé. Selon plusieurs sources locales, les affrontements ont été particulièrement violents samedi et dimanche dans le groupement voisin de Kibabi 1 en chefferie de Baoundé, ainsi que dans Kibabi 2 situé dans le secteur de Katoï. Les combattants de la FCM-23 auraient lancé des attaques simultanées contre plusieurs positions de Wazalendo, notamment celle du groupe Lamuka dirigé par Noah Machano de la paix céleste de Kambouzi et de Pareko de Mutayomba James. Cette reprise des combats intervient après plusieurs jours d'accalmie dans la région et ravive les inquiétudes des populations locales déjà éprouvées par des années de conflits et d'insécurité. Des acteurs de la société civile affirment que ces offensives viseraient à déloger les combattants Wazalendo de leur position. Selon les mêmes sources, la FCM-23 chercherait également à renforcer son contrôle autour du site minier de Rubaya et du centre commercial de Gungu, deux zones stratégiques de plus en plus menacées par les récentes avancées de Wazalendo. La situation reste tendue dans cette partie du territoire de Masisi où les habitants craignent une détérioration de la situation sécuritaire et des nouveaux déplacements des populations.
En Ituri, la recrudescence de la maladie à virus Ebola affecte le fonctionnement de certaines structures sanitaires. Dans la zone de santé des Nyanya, des établissements privés réduisent leurs prestations afin, disent leurs responsables, de protéger les personnels soignants. Une décision contestée par la coordination de la riposte qui estime que les services de santé doivent continuer à fonctionner normalement. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Réunis en assemblée générale extraordinaire le samedi 25 juillet, les membres de l'association des structures de santé du secteur privé, ASAPRI, ont décidé d'instaurer un service minimum dans toutes les structures privées. Les consultations nocturnes sont suspendues et les malades graves seront désormais référés à l'hôpital général de référence de Nyanya. Pour le docteur Willy Ngeleza, membre de l'ASAPRI, cette décision vise avant tout à protéger le personnel soignant qui travaille sans équipement de protection individuelle.
C'est comme ça que plusieurs personnes sont en train de mourir et d'autres contaminés. Ça veut dire que nous devons être protégés d'abord par les équipements de protection.
La coordination de la riposte contre Ebola ne partage cependant pas cette position. Son coordinateur terrain, le docteur Eli Mutumbo, rappelle que même en période d'épidémie, les services de santé et de routine doivent être maintenus afin d'assurer la continuité des soins.
Ce n'est pas parce que nous sommes dans une épidémie qu'on doit arrêter à soigner la population, parce que tout le monde ne souffre pas d'Ebola. Il y a la vaccination des enfants et une femme qui veut mettre au monde, on va l'interdire parce que nous sommes pendant la période d'épidémie. Mais non.
En attendant un consensus, la SAPRI appelle les autorités et les partenaires à doter rapidement les structures sanitaires privées en équipement de protection individuelle afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités en toute sécurité. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Kapi.
Dans le Haut Lomami, les enseignants du territoire de Malembankoulou réclament le paiement de 3 mois d'arriérés des salaires. La synergie des syndicats des enseignants demande également au gouvernement de transférer leur paye des Caritas vers la TMB, évoquant des irrégularités dans le processus de paiement. Les détails avec Paulin Mounanga.
Les enseignants revendiquent les paiements de leurs salaires des mois de mai, juin et juillet 2026. Ils exigent également la suppression d'une retenue de 4000 francs congolais opérée sur les salaires de chaque enseignant au titre des frais de transport liés à l'acheminement de l'argent jusqu'à Malembankoulou. Écoutons le témoignage d'un enseignant de Malembankoulou.
Quand on les appelle la sœur révérende de Kamina, celui qui est chargé de nous payer, et elle dit nous n'avons pas de salaire pour venir payer, le gouvernement avait déjà des bloquer les montants pour payer. Nous demandons aux autorités pour qu'on soit payé à temps et régulier. Les derniers salaires, nous les avons eus le 22 avril.
Contactant à ce sujet, le ministre provincial de l'éducation de Haut Lomami a confirmé l'information. Raphaël Ngoyiolo affirme avoir déjà échangé avec un délégué de Caritas au sujet des plaintes formulées par les enseignants. Il précise que ces derniers sont payés de manière trimestrielle et qu'ils doivent encore attendre 3 mois avant de percevoir leur rémunération. Le ministre déclare toutefois ne pas connaître les raisons de cette situation et promet de saisir le ministre national de l'éducation afin d'obtenir des éclaircissements. Jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à obtenir la réaction de Caritas. Lubumbashi, Paulin Mounanga, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu, une campagne encourage les femmes à accéder à la propriété foncière. Plus d'une centaine de femmes disposent désormais des titres fonciers au Nord et au Sud Kivu grâce à la campagne Femmes en Action. Après Kaleye Mwinga, l'initiative s'est poursuivie à Walikale. Elle vise à mieux faire connaître le droit foncier des femmes et à valoriser leur accès équitable à la propriété. Reportage de Bernanel Nyangi.
Lancée le 23 juillet à Walikale, la campagne cible particulièrement les leaders coutumiers et communautaires ainsi que les organisations locales. Son objectif est de promouvoir un accès équitable à la propriété foncière pour les femmes au même titre que les hommes, explique Madame Marie Boamy, coordinatrice de l'ACCB.
Dans nos milieux, nous avons constaté que la femme comme la jeune fille n'ont pas droit à l'héritage foncier. Seul l'homme avec son fils ont droit à la propriété foncière. La femme cultive seulement la terre de son mari, la terre de son père, aide à fragiliser un peu l'adaptation de la femme, l'adaptation de la jeune fille au changement climatique.
Marie Boamy souligne également que les premiers résultats déjà enregistrés au Sud Kivu sont encourageants.
Nous avons obtenu les premiers résultats, c'est la compréhension des hommes sur la question du droit à la terre par la femme. Sur une cible de 1500 prévue dans le projet Femmes en Action, nous avons obtenu 230 lettres de cession des terres faites par les hommes à leurs épouses, à leurs filles, et le projet Femmes en Action a déjà facilité le notariat de 150 lettres.
Placé sous le thème « Le droit d'accès des femmes à la propriété foncière, un levier pour l'égalité, l'autonomisation et la résilience climatique », cette campagne bénéficie à Walikale de l'appui de Jane Goodall Institute, GGI.
Au Kasaï oriental, la route déserte agricole Mbujimayi-Tulunde, longue d'environ 50 km, est en cours de réhabilitation dans les territoires de Lupatapata. Les travaux devraient permettre d'ici 12 mois d'asphalter cet axe et faciliter l'acheminement de produits agricoles vers Mbujimayi. Les détails avec Esther Ndalafina.
Les travaux de modernisation de la route Mbujimayi-Tulunde ont été lancés grâce au financement du gouvernement central à travers la Caisse nationale de péréquation. Construction, exécution du projet, l'entreprise générale des services et de maintenance mobilier du Congo indique que le chantier comprend trois volets principaux, la construction des caniveaux, la réhabilitation de la chaussée existante et la pose d'un revêtement en asphalte. Situé dans le territoire de Lupatapata, Tshilunde est un important bassin agro-pastoral du Kasaï oriental. Chaque saison, cette contrée produit d'importantes quantités de maïs. Cependant, l'acheminement des récoltes vers Mbujimayi demeure difficile en raison du mauvais état de la route. Les produits sont souvent transportés à vélo sur des pistes difficilement praticables. Pour la ministre provinciale de l'Agriculture, Chantal Moulanga, la réhabilitation de cet axe routier constitue une avancée majeure pour les agriculteurs. Selon elle, cette infrastructure permettra de réduire le temps de trajet et d'assurer une évacuation plus rapide des produits agricoles vers Mbujimayi, améliorant ainsi les revenus des producteurs. Ce projet vise également à désenclaver le territoire de Lupatapata et à renforcer les échanges avec les autres entités administratives du Kasaï oriental. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Et enfin, au Maniema, place à la vie quotidienne de famille en cette période des vacances scolaires. Trois semaines après les débuts de vacances, les enfants profitent de jeux et de moments de détente. Pour les parents, cette période entraîne cependant davantage de surveillance et des dépenses supplémentaires, notamment pour l'alimentation. Florence Kizalunga a rencontré quelques familles à Kindu. Voici son reportage.
Rire, jeux et animation rythment le quotidien de nombreuses familles depuis le début des vacances scolaires. Les enfants profitent de cette période de repos, jeux de groupe, promenades et autres activités récréatives occupent l'essentiel de leur journée.
Moi, pendant les vacances, je joue seulement.
Je n'étudie pas, c'est des purs cauchemars pour moi. Je vais attendre seulement la rentrée des écoles.
Je regarde ma tablette et je regarde la télé. Les soirs, on mange, c'est fini, on dort.
Si les enfants savourent ces moments de liberté, les parents et enfants fort à faire entre les disputes à gérer, le pleur des plus petits et la surveillance de jeux parfois brusques, leur quotidien est devenu plus chargé. Madame Francine Kasongo, mère des familles, reconnaît que les vacances constituent un véritable défi.
Vraiment terrible. Les enfants mangent beaucoup, ils jouent beaucoup. Nous attendons que des mois puissent s'épuiser, que les enfants puissent rentrer à l'école.
Les parents soulignent également une autre difficulté, l'augmentation des dépenses alimentaires. Selon eux, les enfants passent plus de temps à la maison et sollicitent davantage davantage de repas et de collations, ce qui pèse sur le budget familial. Par ailleurs, parmi les enfants rencontrés, seuls quelques-uns consacrent une partie de leur temps à la réélecture ou à la révision des matières vie pendant l'année scolaire. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Le Malawi a achevé l'installation du seul système de stockage d'énergie par batterie à grande échelle d'Afrique australe en dehors de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Une installation de 20 MW conçue pour aider à stabiliser l'approvisionnement en électricité dans l'un des pays le moins électrifié du monde. Le responsable de la société d'approvisionnement en électricité du Malawi a mis en service la batterie ce week-end alors que le pays cherche à rendre son réseau électrique plus résilient face aux aléas climatiques. Un puissant phénomène El Nino entraîne une hausse des températures qui devrait réduire les débits du fleuve Chir, dont le Malawi dépend pour la majeure partie de sa production hydroélectrique.
L'invité.
La première édition de la conférence sur les hydrocarbures en RDC s'est tenue à Lubumbashi du 23 au 24 juillet. Thème retenu, le pétrole, colonne vertébrale de l'économie de la RDC. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Okatanga, a organisé cette activité qui avait pour objectif de faire du secteur des hydrocarbures non seulement un secteur d'approvisionnement du pétrole, mais aussi un levier de développement économique. Notre invité, Patrick Moulin-Dokabeye, président de la FEC du Okatanga, revient sur l'importance de cette conférence dans cet entretien avec Paulin Munanga.
Président Patrick Moulande, bonjour.
Bonjour, Monsieur Paulin.
Après cette conférence sur les hydrocarbures des deux jours, qu'est-ce qui ressort d'essentiel de cette rencontre?
Cette première édition est une première parce qu'elle ne s'est jamais tenue sur l'ensemble de la République. Donc je pense que c'est un pas. Il fallait que le secteur des hydrocarbures aujourd'hui, qui est un moteur du développement économique dans le pays, avec une contribution substantive de plus ou moins 600 millions de dollars par an en ce qui concerne les recettes perçues en termes de fiscalité et de parafiscalité, fiscalité.
À travers les pays?
Non, uniquement sur la partie sud, uniquement dans la partie dans la région sud du Katanga. C'est ainsi que, avec l'initiative et ce dynamisme économique que connaît le secteur des hydrocarbures, qui est un moteur de développement économique pour le pays, nous avons estimé qu'il était important d'amorcer une première conférence pour échanger, discuter, parler de tous les problèmes qui concernent ce secteur, mais c'était principalement axé sur l'aval pétrolier dans la partie sud.
Et vous avez insisté sur des faits concrets qui devraient suivre cette rencontre.
Exactement, c'est-à-dire qu'il était question de faire un diagnostic de la situation. Il faut savoir que le secteur aval dans la partie sud du pays a connu beaucoup d'évolutions. Nous partons d'il y a plus ou moins une vingtaine d'années à des volumes de consommation qui partaient de plus ou moins autour de 30 000 mètres cubes le mois. Nous sommes aujourd'hui à plus ou moins 200 000 mètres cubes le mois consommés. Donc la croissance est exponentielle. Donc il était important de faire un état des lieux, de discuter des évolutions, des goulots d'étranglement et effectivement des perspectives d'avenir dans le but de permettre à l'État de consolider cette captation des moyens de l'État et entre autres d'assainir la situation pour permettre aux opérateurs économiques d'évoluer dans un environnement plus assaini.
Tout au cours de la conférence, la fraude dans le secteur des hydrocarbures est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que vous confirmez que la fraude gangrène ce secteur?
Oui, il y a eu des évolutions, il faut le reconnaître. Je pense que les tableaux qui ont été projetés ont été éloquents. Le taux de captation des recettes publiques d'il y a 3 ans à peine était de 46%. Actuellement, pour le premier semestre de l'année 2026, nous sommes à 71%. Donc je pense qu'il y a eu des avancées notables, les 21% restants. Donc ça fera partie justement des perspectives d'amélioration qui restent. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on devrait parler d'un diplôme, on parlerait de distinction. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est établi que le secteur des hydrocarbures dans le sud est un des moteurs de croissance du développement économique. Et le reste, les propositions ont été faites. Elles seront mises sur la table des décideurs politiques afin de pouvoir voir dans quelle mesure endiguer les petites poches qui ne permettent pas de pouvoir être saisies et maîtrisées. Autant dans le chef des pouvoirs publics que dans le chef des opérateurs économiques dans le but d'endiguer la fraude parce qu'aujourd'hui la captation des recettes publiques est sensiblement croissante et ce n'est que 29% que nous devrions voir dans quelle mesure il faut complètement les endiguer.
Comment se fait la lutte contre la fraude dans les secteurs des hydrocarbures? Parce que nous avons entendu qu'il y a une entreprise MAMO qui s'en occupe.
Il y a plusieurs mécanismes. MAMO, en termes plus simples et en termes compréhensibles, peut être considéré comme un sous-traitant des pouvoirs publics. C'est exactement quand vous voyez la sous-traitance dans le secteur privé, avec la RSP, qui est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui gère la sous-traitance dans le secteur privé. Aujourd'hui, nous avons même évoqué la notion de la sous-traitance tout court. Parce que aujourd'hui, même les pouvoirs publics sous-traitent. Et MAMO est un sous-traitant, est un partenaire de l'État, qui l'accompagne avec des méthodes scientifiques à pouvoir assurer la traçabilité des produits pétroliers du point d'importation jusqu'au point de consommation. C'est entre autres, en partie, raison pour laquelle il y a eu ces fortes améliorations dans la traçabilité des produits pétroliers qui ont sensiblement amélioré les recettes de l'État.
Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans les secteurs sud?
C'est l'assainissement aujourd'hui de la structure des prix. C'est le gros problème auquel on est confronté. On dit que trop d'impôts tue l'impôt. Aujourd'hui, la structure des prix est surchargée. Nous en appelons au ministère de l'économie à ce que dans les jours qui viendront, qu'on puisse se mettre autour d'une table pour discuter de l'assainissement des différentes rubriques de la structure des prix. Aujourd'hui, c'est un problème crucial. Tout ce qui y est contenu doit avoir des supports légaux, réglementaires, afin de pouvoir les introduire dans la structure des prix.
Président Patrick Mouland, je vous remercie.
Je vous remercie également, Monsieur Paulin.
Fin de cet entretien avec Patrick Mouland Kabeye, président de la FEC Okatanga. Il répondait aux questions de Paulin Mounanga sur les enjeux du secteur des hydrocarbures et de sa contribution au développement économique de la RDC. C'est ici que prend fin cette grande édition de 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination des Richard Junior Kamunga avec Alain Goy à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Retrouvez ces journaux en podcast sur notre site et sur nos différentes plateformes numériques.